Chapitre 3. C'était de là, de cette entrée du père dans la chambre, que datait pour Michel Favanne la portion douloureuse de ses souvenirs. Car, de ce moment, le caractère de Clémentine avait commencé de lui apparaître sous un angle obscur d'abord, puis bientôt comme une énigme de fausseté que maintenant encore il ne comprenait pas. Mais maintenant, il n'aimait plus Clémentine. Du moins, il croyait ne plus l'aimer, et cette énigme n'excitait que sa curiosité, au lieu qu'autrefois il s'était meurtri, ensanglanté le cœur à ce mystère. Ne pas s'expliquer l'âme d'une femme quand on l'aime passionnément, s'en défier, la soupçonner, c'est une souffrance pire que de la mépriser tout à fait. Le doute fait plus de mal que la plus cruelle certitude. Quiconque a connu le martyr de la jalousie le sait bien. L'évidence désespère, mais elle apaise. Le cœur a besoin de transparence morale pour sentir, comme l'œil a besoin de lumière pour y voir, et cette scène avec le père, qui s'annonçait comme redoutable seulement dans les fêtes, avait eu ce résultat de troubler à jamais cette transparence pour l'amoureux de Clémentine. Il en était sorti encore plus atteint dans ses sentiments que dans la possibilité de vivre d'après ses sentiments. M. de Révigny s'était arrêté sur le seuil de la porte sans qu'aucun geste révélât chez lui une surprise. Les deux jeunes gens, eux, s'étaient séparés. L'instinct de Favanne avait été de se placer devant la jeune fille pour la protéger. Il put reconnaître aussitôt qu'il n'en était pas besoin. Le visage de l'ancien diplomate ne trahissait aucune colère. Il était simplement plus triste que d'habitude, d'une tristesse sans irritation et comme mêlée de remords. Lui qui trouvait des paroles si amères pour réprimander chez sa fille les plus légers manquements, sa voix n'eut pas un éclat de plus pour dire « Clémentine, veuillez monter dans votre chambre. Vous attendrez, avant d'en sortir, que je vous fasse appeler. » La jeune fille esquissa un geste comme si elle voulait répondre et se justifier. Puis, sous le regard fixe de son père, elle baissa la tête et elle quitta la bibliothèque. M. de Révigny ferma la porte derrière elle avec un calme qui fut plus pénible à Favanne qu'une explosion de fureur, tant il y entrait de visibles dédains, presque du dégoût, et, s'avançant vers le jeune homme, il commença « Je pourrais, monsieur, vous traiter avec la dernière sévérité. Reçu dans ma maison comme vous y avez été reçu, de quel nom qualifier l'intrigue que vous y avez nouée ?»« Monsieur, interrompit le jeune homme, les apparences me sont bien contraires. Pourtant, je vous donne ma parole d'honneur qu'il ne s'est, entre mademoiselle de Révigny et moi, jamais rien passé que vous ne puissiez, que vous ne dussiez savoir un jour. » »« Je ne vous demande aucune confidence, répondit avec le même calme cet étrange père. Si vous êtes coupable, je le suis plus que vous. J'aurais dû penser que vous seriez en butte, de la part de cette malheureuse, à d'abominables coquetteries et que vous n'y résisteriez pas. » Non, monsieur, s'écria Favanne, ne croyez pas cela. Je vous affirme que mademoiselle de Révigny n'a pas été coquette avec moi. C'est moi qui me suis attaché à elle, sans même qu'elle s'en doutât, moi qui l'ai retenue ici pour lui parler, quand elle venait par hasard chercher quelques livres, moi qui lui ai avoué mes sentiments. J'aurais dû les lui cacher, je le sais, d'après les coutumes françaises. Mais, monsieur, en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, on ne considère pas comme un crime pour un jeune homme, quand il a le cœur pris, de demander à une jeune fille si elle veut lui permettre de la conquérir à force de travail et, s'il le peut, de talent. Tous les jours, dans ces pays-là, des enfants de notre âge se fiancent sans rien consulter que leurs sentiments. Et les jeunes filles ne sont pas pour cela des coquettes, et les hommes ne sont pas des séducteurs. Monsieur, continua-t-il, et la loyauté passionnée de sa noble nature émanait de ses regards, de sa voix, de ses gestes. Je vous le jure, j'aurais voulu, dès le premier jour, m'adresser d'abord à vous et vous dire ce que je vous dis maintenant. J'aime mademoiselle de Révigny du plus respectueux, du plus profond amour. Elle m'aime aussi. Je comprends qu'aujourd'hui, toute union entre elle et moi est impossible. Mais si, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5, j'ai trouvé le moyen de me distinguer, si je me suis déjà fait une place dans la presse, au barreau, dans la politique, et que je vienne à vous répéter « Je l'aime, je n'ai lutté que pour avoir le droit de lui donner mon nom, me répondrez-vous encore ce que vous avez le droit de me répondre à présent ? Vous voyez, monsieur, que je ne suis pas un malhonnête homme. Cette heure pour moi est solennelle. Ne me condamnez pas pour toujours au désespoir d'avoir manqué le bonheur sans m'avoir éprouvé. » Il y a dans l'enthousiasme sincère d'une âme jeune une force qui inspire le respect aux plus hostiles, aussi bien qu'aux plus désenchantés. Monsieur de Révigny subissait-il cette fascination de la vieillesse par la jeunesse, ou bien la chaleur d'espérance dont l'amoureux était possédé lui rappelait-elle, à lui, l'époux indignement trompé par une époque où il s'était élancé vers l'avenir avec cette même confiance enivrée ? Il demeura sans répondre durant quelques minutes. Elles parurent interminables à Michel. Le vieillard marchait de long en large dans la pièce, en proie à l'agitation de la plus pénible lutte intérieure. Plus tard, son jeune interlocuteur devait vieillir à son tour et comprendre combien il est amer d'enlever d'un coup à un cœur de 25 ans une chère illusion, mais aussi combien la conscience en nous se révolte à l'idée de laisser un être noble dévouer toute sa vie par avance à quelqu'un que nous n'estimons pas. Éclairé par la terrible expérience de son mariage, ce père, depuis des années, étudiait sa fille profondément, douloureusement. En vain avait-il, par tous les moyens, essayé de corriger la plus funeste hérédité. Longtemps, il avait excusé les mensonges de cet enfant, sa duplicité, son étrange et précoce instinct des choses de l'amour par ce grand mot d'hystérie, si commode à nos indulgences. Il avait fini par la condamner en constatant qu'aucun trouble physiologique ne justifiait une dépravation qui lui faisait horreur par l'analogie, par le souvenir de la mère. La coquetterie la plus hardie et la plus compliquée, la plus spontanée et la plus perfide. Cette dureté qui lui témoignait sans cesse n'était pas seulement l'injuste rancune contre une ressemblance physique presque hallucinante, non, elle dérivait d'un lucide et définitif jugement fondé sur la ressemblance, sur l'identité morale. Le sang de la mère revivait tout entier dans Clémentine. C'était une courtisane née, et cette évidence suppliciait le père. La séduction exercée sur Favane en offrait une nouvelle et affreuse preuve à cet homme malheureux qui savait dans quelles conditions la jeune fille s'était amusée à prendre le cœur du secrétaire. Mais éclairer celui-ci, c'était découvrir la plaie cachée avec tant de soin aux yeux de tous. D'autre part, ces 3 mois de collaboration avaient donné à Révigny une si haute estime de Michel. Le laisserait-il s'engager sur un chemin d'abîme sans lui crier gare ? Ces sentiments contradictoires passèrent dans les énigmatiques paroles qu'il finit par prononcer avec une espèce de familiarité attendrie et amère. « Écoutez-moi, Favane, nous ne sommes liés que depuis bien peu de temps, mais pour moi, vous êtes tout éprouvé. J'ai la prétention de m'y connaître en homme. Vous irez loin, très loin, pas dans le sens de mes idées. Je vois en vous des tendances jacobines qui ne sont pas les miennes. N'importe, le talent est le talent. Vous serez une des forces de ce pays-ci. Je ne vous trouve donc ni prétentieux ni fou lorsque vous parlez de votre bel avenir. Je ne doute pas de lui et je ne mets pas en doute non plus la droiture des sentiments que vous me dites éprouver pour Mademoiselle de Révigny. D'autre part, vous me connaissez assez vous-même pour savoir que je n'ai pas les préjugés de mon monde. Votre nom obscur, votre pauvreté actuelle ne seraient pas des obstacles et je répondrai oui à votre demande si... » Il s'interrompit une seconde et durement, presque brutalement. « Ne m'interrogez pas, je ne vous en dirai pas plus long. Mais sachez-le, jamais vous n'épouserez Clémentine avec mon consentement. Jamais, jamais. » Puis, à voix basse, et comme s'il eût eu honte lui-même de cette parole si terrible pour son enfant, « Et, un jour, vous me remercierez. » Michel Favane restait comme atterré sous la douloureuse énergie de ces derniers mots. Il aimait, et l'amour a ses infaillibles divinations, parce qu'il a de si vivantes, de si aiguës susceptibilités. Il venait de sentir, une fois de plus, passer dans l'accent du père l'injustice dont il avait plaint la jeune fille dès la première rencontre, et ce fut avec un frémissement de révolte qu'il répondit « Vous me déchirez le cœur, monsieur, et vous voulez que je ne vous demande pas le motif, quand vous voulez bien reconnaître vous-même la vérité de mon sentiment et me prodiguer de tels témoignages d'estime. Vous m'autorisez, vous me contraignez à croire que la cause de votre refus n'est pas en moi. Vous m'obligez de me demander ce que vous voulez dire par ces derniers mots, vous me remercierez. Que signifie-t-il ? Est-il juste de me laisser m'en aller sur cette énigme où je ne peux pas ne pas entrevoir un blâme jeté sur quelqu'un que je respecte, comme je respecte ma mère, comme je respecterai ma femme ? Est-il possible que vous trouviez cela juste ? Non. Refusez-moi pour toujours la main de votre fille, c'est votre droit. Mais soyez humain et dites-moi pourquoi. Pourquoi ? Fit M. de Révigny, dont le visage avait pris soudain cette expression implacable que Michel connaissait trop bien pour la lui avoir vue si souvent à table quand il regardait Clémentine. « Pourquoi ? » répéta-t-il avec un mauvais rire. Puis, ironiquement, « Je vous avais prié de ne rien me demander. Vous auriez dû penser que j'avais, pour vous parler ainsi, puis pour me taire, des raisons, de cruelles et tristes raisons. » Je vous croyais plus de tact, je l'avoue, et plus de cœur. Pourquoi ? Ah, si je voulais vous punir de votre question, je n'aurais qu'à faire descendre votre complice. Ne m'interrompez pas. Et c'est elle, entendez-vous, elle qui vous refuserait, c'est elle qui jamais ne voudrait épouser en vous l'homme sans fortune et sans titre que vous êtes. Elle a joué avec vous comme elle aurait joué avec un autre, parce que vous êtes là, parce que... Vous voulez que je vous la dise, la vérité ? Continua-t-il d'un ton furieux maintenant et comme égaré. Ah, je ne peux pas. Mais écoutez un fait, un seul. Il n'y a pas 3 mois, dans cette même chambre, cette même fille à laquelle vous rêvez de consacrer votre vie, me supplie avec des larmes de lui permettre d'épouser quelqu'un dont elle se prétendait éperdument éprise. Non ? Voulez-vous que je vous le nomme ? Vous chercherez à le rencontrer, vous le verrez, vous le jugerez. C'est un moyen de guérison, cela, de constater qui a su plaire à notre idole. C'est le jeune comte de Miossens. Connaissez-le, connaissez-le. Puis, revenant à lui, et avec une tristesse que son interlocuteur ne devait jamais oublier, « Monsieur, cet entretien m'est trop pénible. Finissons-en. Il y a 3 mois, vous venez déjà ici. Clémentine, vous connaissez. » Elle voulait en épouser un autre. Vous me direz qu'à son âge, le cœur s'ignore et qu'elle peut avoir voulu se marier sincèrement avec M. de Miossens voici quelques semaines et vous aimer sincèrement aujourd'hui. Vous conviendrez pourtant que de pareilles volte-face ne sont pas des garanties d'amour et que j'ai quelque chance de ne voir dans cette coquetterie avec vous qu'une légèreté et un caprice. Il ajouta après un silence, peut-être un calcul. Il est certain que si M. de Miossens renouvelait sa demande aujourd'hui, après ce que j'ai surpris ce matin, je ne répondrai plus par un refus. Je me débarrasserai d'elle pour toujours. Quel mariage, pourtant ! Quel mariage ! Et que fera-t-il d'elle ? Mais c'est tout ce qu'elle mérite. Et vous, Favane, vous méritez un autre amour, une autre femme, une autre vie. Adieu, vous ne devez plus reparaître ici. J'essaierai d'achever seul ce que vous avez si bien commencé. » Et il montrait, de sa vieille main tremblante d'émotion, les papiers épars sur la table. « Je vous regretterai, et vous, je vous répète qu'un jour vous me direz merci. Vous comprendrez alors combien il faut que je vous estime pour vous avoir montré la plaie que je porte là. » Et il se frappa le cœur. « Je ne vous demande pas votre parole de ne jamais rien redire de cet entretien. » Je croirais vous faire injure, et adieu, adieu encore. » Quelle conversation à soutenir pour un amoureux et pour l'amoureux d'une jeune fille, c'est-à-dire d'un être si naturellement placé au-dessus des bassesses de la vie, que l'aimer, suivant la touchante expression du poète, c'est presque une piété. Que répondre à cet irrécusable témoin dont chaque phrase, chaque réticence signifiait la fatalité du sang de sa mère? Et sur cet enfant ? Favane se rappelait d'être sorti de l'hôtel de Révigny après cette scène, chancelant comme un homme ivre. En traversant la rue du Faubourg Saint-Honoré, une voiture avait failli le tuer. Le sens du monde extérieur était comme suspendu chez lui. Le cheval, heureusement ou malheureusement, lancé à un faible trot, l'avait heurté du chanfrein sans que ce terrible choc le réveillât du douloureux somnambulisme où les phrases du père l'avaient plongé. Des larmes lui coulaient sur les joues qu'il n'essuyait pas. Il n'avait trouvé quelque détente qu'une fois rentré dans sa chambre d'étudiant. Là, couché sur son lit, il s'était laissé aller à des sanglots, à des cris, à ce soulagement nerveux des faibles, lui le stoïque, lui l'impassible, qui, plus tard, devait opposer aux pires rumeurs des réunions publiques les reins d'un front qu'aucune insulte ne faisait pâlir ou rougir. À 25 ans, l'âme est tenace et vivace. Elle ne se rend pas à la douleur sans avoir réagi avec toute la force de sa vitalité inentamée. Après cette crise de désespoir physique, Favane s'était repris tout d'un coup. Il se rappelait s'être relevé sur son lit en passant ses mains sur son visage et avoir prononcé tout haut ces paroles « Non, 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 ce n'est pas vrai !» Contre quelle accusation se révoltait-il avec cette sauvage énergie? Lequel des faits positifs allégués par M. de Révigny démentait-il de la sorte? En définitive, à quoi se réduisaient-ils ces faits? À ceci que Clémentine, moins de 3 mois auparavant, et quand il venait déjà dans la maison, avait été demandée en mariage par un autre et qu'elle aurait consenti si son père avait consenti? Qu'est-ce que cela prouvait? Qu'elle ne l'avait pas aimé aussitôt, voilà tout, et que, malheureuse dans son intérieur, elle avait saisi la première occasion d'en sortir. Le père lui-même avait reconnu qu'à l'âge qu'elle avait, le cœur s'ignore et change si vite, si sincèrement. Mais ce cœur de vierge avait-il changé? Ce désir d'épouser M. de Miossens avait-il été autre chose qu'un trop légitime élan pour affranchir sa vie? Et alors, quelques semaines plus tard, quand elle l'avait mieux connu, lui, Favane, avait-elle été inconstante en se laissant prendre au sentiment qu'elle lui avait laissé deviner? Où était la coquetterie? Où le calcul? Elle n'avait pas révélé à son nouvel ami la demande en mariage du comte de Miossens. Pourquoi l'eût-elle fait, puisque cette demande avait été définitivement écartée? Est-ce que la coquetterie n'eût pas consisté justement à en parler pour exciter sa jalousie? Et quant au calcul, à cette combinaison scélérate dont M. de Révigny l'avait accusée, comment en associer même l'idée à cette attendrissante physionomie d'enfant trop sensible? Elle, si jeune, si novice, avec ses beaux yeux d'une douceur farouche, avec son sourire d'une si craintive émotion, avec la délicatesse empreinte dans tout son être, elle aurait conçu, ourdi, exécuté ce projet digne d'une rouée, se compromettre avec un des familiers de la maison d'une manière qui attira l'attention de son père, se faire surprendre et que ce père, dans le désir de se débarrasser d'une surveillance impossible, la maria comme elle voulait. Favane aurait cru s'avilir lui-même s'il avait discuté une seule minute cette insultante hypothèse. Et puis, n'avait-il pas eu d'elle de ces signes de sincérité qui ne trompent pas? La lumière dont avaient rayonné ses prunelles quand il avait osé lui demander si elle était son amie, l'espèce de supplication qu'elle avait eue dans la voix pour l'implorer, ce passionné, ce plaintif, « Répétez-moi que vous m'aimez !» Le tremblement de ce corps si frêle contre son cœur à lui, de ses paupières sous ses lèvres, « Ah, l'adorable, la pauvre enfant !» Et que ce père était criminel, qui la méconnaissait, qui la calomniait ainsi. Pourquoi? Uniquement parce que la mère l'avait trahi et que Clémentine avait commis le crime de naître avec les traits de cette mère. Ces raisonnements, et d'autres pareils, Michel se souvenait se les être faits sur le champ et les avoir jugés irréfutables. Il l'était, même pour quelqu'un qui n'eût pas eu la partialité indulgente de l'amour. La passion même avec laquelle l'ancien diplomate avait parlé de sa fille prouvait chez lui une anomalie sentimentale, quelque chose de dénaturé. Eh bien, de se dire cela n'avait pas suffi pour apaiser, dans le jeune homme, cette fièvre du doute insinuée soudain dans ses veines. En répétant tout haut le cri « ce n'est pas vrai », il s'était défendu contre une certitude nouvelle, il n'avait pas retrouvé celle d'auparavant. Il ne pouvait, après cet entretien, rendre dans son esprit à l'image de la jeune fille son premier éclat de pureté. C'est qu'il avait distinctement lu à travers tous les mots, tous les regards, tous les gestes de son interlocuteur, cette certitude dans le mépris, impossible à rencontrer sans qu'il en émane une suggestion. Nous savons tous d'instinct que ce sentiment-là, cette condamnation totale d'une conscience par une autre conscience, ne se simule point, qu'elle ne se crée point en nous par la volonté. C'est un verdict qui s'impose à nous-mêmes, malgré nous-mêmes le plus souvent, et d'un père à une fille, ni l'erreur, ni la méchanceté, ni la manie ne suffisaient à l'expliquer absolument. Au cours de cette meurtrière conversation, c'était cette bonne foi évidente, indiscutable, de M. de Révigny qui avait le plus vivement supplicié Favannes. Contre les accusations précises, il avait pour arme sa logique et son amour. Contre l'interdiction de revoir Clémentine, il avait cet amour encore et l'invincible patience que nous mettent au cœur des sentiments comme le sien, absolus, irrévocables. Contre la haine du père envers son enfant, il avait cette explication « Elle lui rappelle la mère ». Il n'avait pas de défense contre cette dernière idée. Ce père ne hait pas seulement sa fille, il la méprise. Comment ce mépris avait-il pu naître et grandir chez cet homme, bien inique assurément, bien dur, et chez lequel la rancune de la trahison subie jadis eût justifié de pire dureté, mais pas celle-là et pas à ce degré? Son accent de souffrance, sa révolte contre le mariage avec le jeune de Miossens, son cri de détresse, qu'en fera-t-il? Tout prouvait qu'il n'avait pas renoncé si aisément à bien diriger l'avenir de sa fille. Elle ne lui avait donc pas toujours été indifférente, à plus forte raison odieuse. Il avait eu des raisons, ces tristes et cruelles raisons, dont il avait si amèrement parlé, pour en arriver à ce monstrueux mépris. Favannes se sentait comme glacé à la fois et accablé par cette évidence. Combien il en avait souffert, le premier sursaut passé, et durant les jours qui avaient suivi, qu'il s'était martyrisé de foi le cœur à la pensée honteuse, combattue, inavouée, inchassable, que ce père si dur avait peut-être dit la vérité, et que sa Clémentine n'était pas telle qu'il la jugeait, telle qu'il la plaignait, telle qu'il l'aimait. De longues, longues semaines s'étaient écoulées ainsi, entre cette dernière vision de Clémentine sortant de la bibliothèque sous le regard insulteur de son père, et la minute où Favannes s'était retrouvé auprès d'elle, appelé par la jeune fille à un rendez-vous dont l'obsession pesait encore sur lui après 15 années. Oui, après de bien longues semaines, passées tout entières à se demander « Que fait-elle? Que pense-t-elle? Où est-elle ?» et à ne pas répondre. Dès le lendemain de la catastrophe qui lui avait fermé l'hôtel de Révigny, le jeune homme n'avait pu se retenir d'aller au faubourg Saint-Honoré. Caché dans l'angle d'une rue transversale, d'où il voyait la porte de la maison, il avait épié une sortie de celle qu'il continuait d'appeler sa fiancée, l'apparition de sa fine silhouette sur un coin du trottoir, de son délicat profil derrière une vitre de coupé. Il n'avait rien vu, et quand, 24 heures après, il était venu se poster sur la même marche du même trottoir, l'hôtel lui avait montré la face muette d'une demeure où les fenêtres closes annonçaient le départ. M. de Révigny avait emmené sa fille loin de Paris. Pour la conduire dans quel exil? L'amoureux n'en aurait rien su que l'absence si, à 15 jours de là, une enveloppe ne lui était arrivée au timbre de Rome et dont la suscription le fit trembler tout entier. Quoiqu'il n'eût jamais vu l'écriture de Clémentine, il l'avait reconnue. L'enveloppe ne contenait qu'une feuille de papier blanc et, dans ce papier, trois violettes dont le tendre arôme s'exhalait, à demi évaporé, faible et caressant, comme un lointain souvenir, avec ces mots en anglais « Forget me not ». 15 jours encore, et une seconde enveloppe était venue, timbrée celle-là de Naples, et apportant dans ses plis des pétales de rose, et plus tard une troisième, timbrée de Venise, avec d'autres violettes et un brin de réséda, et chaque fois la même et enfantine expression d'un romanesque si banal de pensionnaire avait pris le cœur du jeune homme comme si une main, la petite main qui avait tracé ses caractères, le lui eût physiquement serré. Ces trois enveloppes, Favanne les avait ouvertes, des larmes dans les yeux. Ses lèvres s'étaient posées sur l'écriture et sur l'adresse, en implorant le pardon de l'ange qui lui envoyait ainsi une preuve de sa vérité d'âme. Cette fidélité de l'amie absente, cette délicate pudeur, quelle réponse aux infâmes soupçons de coquetterie et de légèreté qu'il avait pu admettre un instant sous le coup de la parole du père. Et il s'était repris à croire, à espérer, à vouloir. Il avait commencé à exécuter ce programme d'un acharné travail qui était celui de ses mystérieuses fiançailles et de quelle naïve et juvénile manière. Ayant besoin d'un succès immédiat, ne s'était-il pas avisé de concourir à l'un des grands prix de l'Institut avec un mémoire sur l'histoire de l'esprit colonisateur en France? S'attaquer à un pareil sujet pour conquérir une Clémentine de Révigny? Ô folie! Ô sottise! Le leader républicain de 1896 en haussait les épaules et cependant, quoi qu'il en eût, rien au monde ne l'attendrissait comme l'image du fervent et romanesque travailleur de 1881 qui, levé à 4 heures, allumait sa lampe, son feu, préparait son café noir et se mettait à écrire après avoir indéfiniment contemplé les pauvres corolles séchées dans leurs enveloppes italiennes et les trois petites phrases anglaises, tout son trésor. Ô folie! L'avait-il aimée, sa fiancée idéale? Ô sottise! Avait-il assez tendrement escompté en pensée le bonheur à venir, les jours de triomphe où il lui raconterait ses exaltations secrètes, sa lutte solitaire d'aujourd'hui? Ces rudes séances de travail se prolongeaient jusqu'à 10 heures. De 10 heures à midi, il donnait ses répétitions de droit. De 1 heure à 4, il était à la Bibliothèque nationale. À 4 heures, une répétition encore. Le temps de prendre le plus frugal dîner dans un restaurant d'étudiants avant l'arrivée des habitués, le travail recommençait jusqu'à 10 heures, et, avant le sommeil, sa pensée évoquait le fantôme de l'absente pour lui demander religieusement « Es-tu contente de moi? Ai-je tenu ma promesse de fidélité pieuse? T'ai-je bien aimé ?» Cette fièvre de travail et d'espérance durait depuis 3 mois, lorsqu'en rentrant de la bibliothèque, Favanne avait trouvé une nouvelle lettre de Clémentine au timbre de Paris. Les Révigny étaient revenus. Quand le jeune homme eut déchiré l'enveloppe de ses mains frémissantes, il vit qu'elle ne contenait aucune fleur séchée et, cette fois, la feuille portait plusieurs lignes. Il put y lire « Si vous ne m'avez pas oublié, venez demain mardi à 10h30 au bois dans l'allée en face de la muette. » Ces mots avaient été tracés, comme les autres, sans signature, d'un crayon si nerveusement appuyé que la pointe en avait cassé sur l'aime du mardi. Le papier, déchiré à même un bloc-notes, trahissait la hâte. Que ces signes de l'étroite surveillance où vivait Clémentine avaient ému l'amoureux. Comme, à l'idée du danger qu'elle courait en lui donnant ce rendez-vous, il avait adoré de cette généreuse preuve d'amour. Comme il avait compté les heures, les minutes, couché dans son lit, ne pouvant pas dormir, et les sonneries des couvents et des collèges, épars sur la montagne Sainte-Geneviève, lui arrivaient, dans le vaste silence nocturne, comme une musique divine. Avec quelle angoisse il avait regardé le ciel, au matin, et constaté, avec quelle joie, qu'à peine une légère vapeur flottait sur le palazur. Que son pied était léger par cette jolie matinée de printemps, lorsque, dès 8 heures, il était parti du côté d'Auteuil. Il lui semblait être encore sur cette route de songe et qu'il écoutait de nouveau les dalles de la place du Panthéon sonner sous son pas et qu'il respirait le parfum des lilas fleuris du Luxembourg et qu'il revoyait le glorieux rayonnement du dôme doré des Invalides, le flot verdâtre de la Seine, les premières verdures du Trocadéro, les noirs cyprès du petit cimetière de Passy, érigés par-dessus leurs murs en contre-haut, enfin les statues du jardin de la Muette, blanches sur leur piédestal, et ce coin d'allée où, après une longueur d'attente, Clémentine lui était apparue. Elle marchait vite, accompagnée d'une femme de chambre que Favanne n'avait jamais vue. À quelque distance, une victoria immobile se dessinait derrière les arbres, celle de la jeune fille qui fit signe à son amie, avec la main, de ne pas l'aborder encore. Ce fut seulement après 10 minutes, et dans une contre-allée parallèle à une route cavalière, qu'elle s'arrêta pour l'attendre. Il l'avait suivie, admirant sa taille fine, la grâce de son pied, l'or de ses cheveux, ses souples mouvements. Elle portait un costume de drap gris avec une jaquette noire à demi ajustée, où se devinait sa svelte cambrure, et quand elle se retourna, son chapeau avancé mis sur le haut de son visage comme une barre d'ombre dans laquelle ses beaux yeux bleus brillaient d'une lueur magique. Sa voilette se soulevait doucement sous son souffle que cette marche rapide faisait plus court, et elle dit, de sa voix qui, naturellement basse, s'étouffait encore par ce léger allaitement, « Ah, je savais bien que vous ne m'aviez pas oublié et que vous viendriez. Merci !» Puis, rieuse, « Vous n'avez pas compris pourquoi je vous ai fait signe de ne pas me parler tout à l'heure. C'est que je ne suis pas sûre du cocher au lieu qu'Emma... » Et comme les deux jeunes gens étaient à quelques pas déjà, en avant de la femme de chambre qui se laissait complaisamment devancer, « Vous voyez, c'est comme si nous étions seuls. Avec mon ancienne gouvernante, c'eût été de même. Mon père l'a renvoyée le jour qu'il nous a surpris. Il s'est défié d'elle. Ah, si je l'avais gardée, vous auriez pu m'écrire. Je la tenais par une intrigue dont j'avais la preuve. Emma est toute nouvelle, mais c'est une bonne fille. » Avec quelques cadeaux, j'en fais tout ce que je veux. C'est elle qui a mis ma lettre à la poste hier. » Ainsi avait-elle continué en regardant Michel après un silence. « C'est bien vrai, vous m'aimez toujours ?» Cette dernière petite phrase, prononcée d'un accent câlin, avec un joli avancement de tête questionneur et intimidé, avait été très douce au jeune homme, d'autant plus douce que ce commencement d'entretien lui infligeait une impression pénible. L'affreux jugement porté par M. de Révigny sur sa fille venait de se représenter devant sa pensée d'une façon presque insupportable à constater avec quelle aisance cet enfant de 19 ans manœuvrait les complicités des inférieurs. Ainsi s'expliquait le manque de surveillance qui lui avait permis les longues visites dans sa bibliothèque durant les séances de travail de Favanne. Elle tenait sa gouvernante d'alors, comme elle avait dit, ce qui supposait une initiation de son jeune esprit à quelque malpropre aventure. Elle faisait de sa femme de chambre ce qu'elle voulait, avait-elle dit encore, avec des cadeaux, ce qui constituait un peu scrupuleux marchandage de conscience. L'amoureux avait entrevu ces tristes vérités dans un éclair. Puis, aussitôt, la voix chérie, la frémissante et caressante voix, avait eu raison de cet instinctif froissement, et il avait répondu « Est-ce qu'on cesse jamais d'aimer quand on aime véritablement ? Mais, depuis que nous avons été séparés, je n'ai pas eu une pensée qui ne fût à vous, pas une. Vous attendre, vous regretter, vous espérer, ça a été toute ma vie. » Je ne savais rien de vous, sinon que vous voyagez dans cette belle Italie d'où vous m'avez envoyé des fleurs. De regarder ces fleurs, de les respirer, de songer que vos mains les avaient touchées, que vos yeux s'y étaient posés, cela suffisait pour me redonner chaque matin le courage dont j'avais besoin. Et je reprenais le travail qui devait me rapprocher de vous, avec la certitude qu'une minute arriverait où je serais payé au centuple de ce que j'avais souffert. « Que je vous aime, mon Dieu, que je vous aime !» Il parlait ainsi, et elle l'écoutait en fermant à demi ses paupières, comme si la chaude spontanéité du sentiment qu'elle inspirait à ce jeune homme, bien différent de ceux de son monde, caressait en elle une place infiniment profonde et voluptueuse. Autour d'eux, c'était, sous le ciel délicatement pâle de cette matinée, le gracieux éveil du coquet printemps parisien. Les feuilles vertes se dépliaient, tendrement, frileusement, sur la grêle armature des branches, noires encore de l'hiver récent. Des fleurs pointaient dans les fourrés, parmi les herbes déjà hautes. Parfois, des cavaliers passaient, au petit galop de leur monture, dans l'allée centrale, dont les amoureuses étaient séparées par un rideau de jeunes arbres. Le souffle rude des chevaux s'accompagnait du bruit sourd des sabots sur la terre défoncée. Des voix et des rires éclatés, deux ou trois silhouettes d'hommes et de femmes défilaient, rapides, et, aussitôt, le bois retombait à son charme d'idyllique solitude. On n'entendait plus que le gazouillement des oiseaux, le soupir du vent dans les ramures et les paroles de Favane qui racontait sa vie de ces 3 derniers mois à Clémentine. Était-il possible qu'elle ne l'eût attiré sur ce chemin de bonheur et d'extase que pour se jouer de lui si cruellement et si gratuitement? Oui, pourquoi ses yeux attendris, ses rougeurs, cette joie évidente si elle ne l'aimait pas? Pourquoi, si elle ne l'aimait pas, lui avait-elle répondu par des confidences semblables, racontant sa vie, elle aussi, et qu'elle avait tant songé à lui, tant de fois souhaité de le revoir, et qu'il n'eût pas changé? Si elle ne l'aimait pas, pourquoi lui avait-elle donné un autre rendez-vous, à la même place, pour un de ces matins de la semaine suivante, puis un troisième, puis un quatrième? Les images se juxtaposaient pour Favane les unes sur les autres. Ce qu'il en retrouvait dans sa mémoire, c'était toujours ce clair et doux azur printanier, ces claires et douces verdures des premières frondaisons et les claires et douces prunelles de son amie quand il s'approchait d'elle dans la petite contre-allée, et c'était aussi des phrases de sa claire et douce voix l'interrogeant, lui demandant « Qu'avez-vous fait depuis que vous m'avez vu? M'avez-vous bien aimé ?» Et, de nouveau, quand il répondait par des protestations qui lui venaient du plus profond de son cœur, les paupières de l'étrange fille se fermaient à demi, sa bouche s'entr'ouvrait, une expression de délice animait son visage, et elle lui disait « Encore, encore !» Ah, pourquoi, si elle ne l'aimait pas? Mais si elle l'avait aimé, aurait-elle jamais proféré d'autres paroles, les infâmes et inoubliables paroles qui étaient venues tout d'un coup démontrer à l'amoureux, d'une façon si cruellement inattendue, combien M. de Révigny avait eu raison? Aurait-elle terminé sur ce coup terrible, leur innocente, leur pure idylle, durant laquelle il n'avait pas une seule fois pris un autre baiser à celle qu'il considérait comme son idéal fiancé? Et il revoyait son arrivée à lui, à ce rendez-vous, exactement le cinquième, et son arrivée à elle, un peu en retard. Elle avait ce jour-là une robe en serge bleu, dont le corsage moulait sa fine taille. Sous son petit chapeau de pailleron, un voile blanc lui enveloppait le visage, et à travers la gaze, ses yeux brillaient d'un éclat singulier, d'inquiétude et de volonté. Dès l'abord, Michel remarqua cet étrange regard. C'était comme si elle eût projeté toute sa force intérieure par ses prunelles d'un bleu sombre pour le pénétrer d'un magnétisme, d'une suggestion. Il n'avait pu, après les premiers propos échangés, se retenir de la questionner. Et après avoir répondu évasivement, elle avait fini par lui dire « C'est vrai, j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Je n'ai pas voulu que vous l'appréciez par une autre personne. » « Une nouvelle, mais laquelle ?» avait-il interrogé, plus surprise encore par l'étrange ambiguïté de son frémissant sourire que par la phrase elle-même. « Je veux que vous me répétiez que vous m'aimez et que vous m'aimerez toujours, quoi qu'il arrive » avait-elle insisté. « Quoi qu'il arrive, soyez-en sûr » avait-il répondu en soulignant lui aussi ces 3 mots. Qu'ils y faisaient tenir tous deux de choses différentes. Lui, son appréhension que M. de Révigny ne les séparât de nouveau, et son serment de fidélité, et elle. Et il avait ajouté, « Mais pourquoi cette demande et ce doute ?»« À cause de la lettre que vous m'avez écrite, avait repris Clémentine avec hésitation, 3 jours avant la scène avec mon père. Vous vous la rappelez ?» C'était la première allusion qu'elle faisait à cette demande de s'engager à lui. Le jeune homme, lui non plus, n'avait jamais reparlé, et à quoi bon? N'était-ce pas une promesse d'être son épouse, que ces rendez-vous, que cette intimité, que toute cette tendresse qu'elle lui montrait? Et elle insista. « Vous vous rappelez aussi que je n'ai pas répondu à la demande que vous m'y faisiez ?»« Celle de m'accepter pour fiancée, avait balbutié Chavanne. » D'un geste ému, cette fine tête fit signe que c'était bien à cela qu'elle faisait allusion. Michel sentit soudain son cœur s'arrêter de battre, sa gorge se serrer, le point intime de son être tressaillir, dans l'attente des mots que cette palpitante et nerveuse bouche allait prononcer. Quels allaient-ils être? Il ne le soupçonnait pas, mais il prévoyait quelque catastrophe. « Ah, pas celle-là, pas celle-là !» « Il ne faut plus penser à ce rêve !» avait dit Clémentine. J'en ai reparlé à mon père. Il ne consentira jamais à mon mariage avec vous. Jamais. Et moi ? » Et sa voix s'était faite plus caressante, ô perfidie, pour proférer cet arrêt de mort du bonheur de celui qu'il aimait tant. Ô cruauté ! Et moi, je ne peux pas vivre plus longtemps à la maison. Je ne veux pas. Je suis trop malheureuse. Il faut que je m'en aille. Il le faut, coûte que coûte. Et j'ai pris le seul parti que je pouvais prendre. » C'est-à-dire ? Avait interrogé Michel d'une voix brisée par l'émotion. À peine s'il avait eu la force d'articuler ces quatre syllabes. Il s'attendait qu'elle allait lui demander de fuir ensemble, et s'il était prêt à prendre toute sa vie, à donner toute la sienne, et voici qu'il entendit, il entendait encore, après tant d'années, cette adorable bouche répondre à sa question, cette phrase dite si vite et si bas. Elle lui entra dans le cœur comme une lame de couteau, déchirante et glacée. « C'est-à-dire que je vais me marier !» Ces mots étaient si fantastiques dans les circonstances où se trouvaient Clémentine et Favanne. Avoir choisi ce rendez-vous pour l'annonce d'une pareille nouvelle était une si gratuite dureté. Il y avait, entre ce détour subi de leur entretien et son commencement, un contraste si fou, si monstrueux presque. L'annonce de ce prochain mariage sur ses lèvres de jeune fille, qui, tout à l'heure, implorait un serment d'amour, représentait une si effrayante inconscience, une anomalie si déroutante de sentiments, que Michel resta une minute sans pouvoir parler. Tout d'un coup, la mémoire lui revint de la terrible scène avec M. de Révigny, à laquelle Clémentine faisait allusion, de l'accusation portée par le père, de la ruse qu'il avait dénoncée, cette idée d'arracher son consentement à une autre union, en se compromettant et rendant la surveillance trop difficile. Et, pensant tout haut, le jeune homme s'écria « Vous vous mariez ? Vous vous mariez ? Ce n'est pas M. de Miossens que vous épousez, n'est-ce pas ? Affirmez-moi que ce n'est pas lui !»« C'est lui !» répondit la jeune fille. « Comment savez-vous son nom ?» Ce que Favanne avait dit alors, quelles paroles il avait prononcées à son tour, de supplication éperdue, puis de colère, comment il en était arrivé à répéter toute sa conversation avec Révigny et l'effroi de la jeune fille, puis l'accent qu'elle avait eu pour répondre « Vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez pas !» Comment il était rentré après cet horrible entretien, il ne se rappelait plus ce détail de son agonie. Il savait seulement qu'à partir de la seconde où Clémentine avait prononcé ce nom de Miossens, une douleur trop aiguë l'avait littéralement rendu fou. Il la revoyait, secouant sa blonde tête, tandis qu'il s'abandonnait, en lui répondant, à toute la frénésie de son indignation. Il entendait, répétant cette phrase, qui avait fini de le porter à un délire de fureur, « Ah, ce n'est pas ce que j'attendais de vous !» Oui, elle avait osé lui adresser ce reproche, elle qui venait de lui annoncer son mariage, avec ce raffinement dans le cynisme. C'était cela. Cet étonnement, ce chagrin plutôt de la jeune fille devant sa révolte, qui avait le plus cruellement atteint Favanne. Il se souvenait qu'à un moment, il avait quitté en lui disant « Adieu, je ne vous reverrai plus de ma vie !» et qu'elle avait balbutié, comme folle, d'une voix défaillante « Adieu, est-ce possible ?» Et il s'en était allé. Il ne s'était pas retourné, il avait cru entendre ses petits pieds courir après lui. Sauvagement, alors, il s'était jeté dans un fourré, fuyant et cet entretien et cette douleur, et surtout cette monstruosité sentimentale dont elle avait voulu le rendre complice, par quelle fantaisie corrompue ? Depuis, chaque fois qu'il avait pensé à l'inexplicable cruauté de cette entrevue, ce même frisson d'horreur l'avait toujours saisi à se demander « Pourquoi ?» Il se le demandait ce soir encore, à mesure qu'il se représentait, point par point, cette scène d'une dépravation morale d'autant plus inintelligible que Clémentine, visiblement, n'y jouait pas une comédie. Non, elle était sincère à sa façon, dans la plus singulière et la plus détestable complication d'âme. Si elle n'avait pas désiré sincèrement être aimée de Favanne, si elle n'avait pas trouvé, à la sensation du trouble passionné où elle le jetait, une sorte de plaisir égoïste, pervers, mais véritable, tout de même, est-ce qu'elle se serait donné la peine de se faire courtiser par lui, de lui envoyer des fleurs durant son voyage, de lui fixer ce rendez-vous, de l'écouter avec ses yeux. Est-ce qu'elle aurait trouvé cet accent pour lui dire « Aimez-moi, je veux que vous me répétiez que vous m'aimez » et de la même voix, au cours d'un de ces rendez-vous qui, par eux seuls, était un engagement, ce mariage annoncé, cette exigence qu'il accepta cette hideuse chose en continuant de l'aimer. Et puis, depuis qu'il s'était ainsi refusé à ce rôle abject de l'amoureux pauvre, que l'on se garde, à côté du riche époux, comme un jouet sentimental, plus une ligne, non pas même de remords, mais de regrets, mais de souvenirs. Plus rien que l'annonce du mariage lue dans un journal, avec la liste magnifique des cadeaux et le défilé des invités. C'était à cela pourtant qu'il avait été sacrifié, et de quelle manière ? Combien M. de Révigny avait eu raison dans son mépris pour une nature capable, spontanément, instinctivement, de pareilles difformités dans sa façon de sentir ?